Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureuse de vous retrouver en cet été. Magnificat est l'émission de l'association Marie de Nazareth, pardon, et de Mille raisons de croire. Je vous invite à vous rendre sur nos sites afin de suivre toute notre actualité. Je souhaiterais annoncer quelque chose de particulier ou en reparler. Nous avions le projet donc de nous retrouver à Lyon le 22 août prochain. L'événement a malheureusement été annulé pour différentes raisons. Notez par ailleurs que je ne sais pas si l'association se poursuivra au-delà du 24 août. Mais écoutez, j'espère bien vous retrouver quand même. Alors pour ce qui est des consécrations que nous avions proposé de déposer à Fourvière, je m'engage à les déposer moi-même. Ou à les faire déposer de toute façon. Toutes les consécrations qui nous sont parvenues seront, je vous l'assure, déposées au pied de la Sainte Vierge à Fourvière. Voilà, mais nous n'en sommes pas là. Profitons de cette émission pour parler de Frassati, Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati, c'est difficile à dire, je comprends mieux pourquoi on l'appelle Frassati en fait. Alors, nous avons la grande joie d'avoir de nouveau Patrick Sbalchiero, que nous recevons régulièrement, qui a écrit vraiment un très beau livre, une très complète biographie de ce futur saint, hein, canonisé le mois prochain. Et donc, vous êtes fidèlement à nos côtés pour nous présenter ce jeune homme, bientôt saint, un bel exemple pour nos jeunes. Alors, Patrick, vous êtes, je le rappelle, un écrivain prolifique, tant mieux pour nous, car nous découvrons tant de choses avec vous. Vous êtes historien. Nous le verrons la semaine prochaine avec la dévotion sur le Sacré-Cœur et la semaine suivante sur le Sacré-Cœur de Montmartre, la basilique. Je pense que vous devez en être à 23, 24, 25 ouvrages.
Je ne l'ai plus compté exactement depuis un petit moment.
Et vous avez travaillé avec de grands hommes, je pense à Monseigneur Laurentin, le cardinal Poupard, et vous avez été préfacé par Pierre Chaunu. Voilà, de belles rencontres pour vous sans doute. Alors Patrick, avant de parler de Frassati, est-ce que vous pouvez nous dresser le milieu dans lequel il a grandi, son papa, sa maman? C'est pas un pauvre saint, je dirais.
C'est tout sauf un pauvre saint.
Oui.
Pier Giorgio Frassati vient au monde dans un milieu aisé, voire très aisé. Son père est un homme d'affaires. Qui a repris et fait prospérer un journal quotidien qui va devenir, en quelques années, eh bien, le principal journal quotidien de l'Italie du Nord, la Stampa,
hein, oui.
Qui est un journal qui existe toujours, bien sûr, et qui est un journal tout à fait remarquable. Sa famille, la famille du bienheureux et futur saint, est une famille catholique, hein. Remarquez, nous sommes en Italie, donc ce n'est pas une chose évidemment inhabituelle.
Catholique avec des petites guillemets, non?
Alors, catholique avec des petites guillemets, mais ne reniant jamais la foi, hein, de manière radicale, comme certains peuvent le faire. C'est un christianisme que j'appelle pour ma part quelque peu sociologique, c'est-à-dire qui est ancré dans une tradition à laquelle eh bien, il faut faire honneur, en quelque sorte.
Oui.
Pour sa mère en particulier, la mère du bienheureux, ça va un petit peu plus loin.
Oui.
Il y a quand même une recherche. Alors, est-ce que cette femme était une artiste peintre, etc.
Oui.
Peut-être. Il y a une recherche de disons, métaphysique, hein, une recherche spirituelle quand même. Son père est évidemment de très pragmatique, hein, de très réaliste. C'est un homme, encore une fois, qui a le sens que du business, des affaires, comme nous pourrions dire. Et à brûle pour point, comme ça, on pourrait le croire extrêmement éloigné des choses de la foi. Or, il va se rendre compte, peut-être bien sûr tardivement, mais qu'à la disparition de son fils, la disparition précoce de son fils, eh bien tout ceci prend sens, quelque part, y compris son propre comportement, qui n'a pas toujours été facile vis-à-vis de lui.
Du reste, dans votre livre, vous dites qu'il lui a fallu quelques années quand même après la mort de son fils pour s'imprégner de cette foi et découvrir à quel point son fils était...
La pierre d'achoppement, simplement, c'est la vocation de son fils. Lui aurait voulu, bon père, bien sûr, de famille, qu'il reprenne la suite de ses affaires.
Oui. Il a eu beaucoup de mal à accepter que son fils fasse des études d'ingénieur.
Voilà, ingénieur des mines. Pourquoi est-ce que cela tombe du ciel comme ça? Est-ce un prêtre ou le clergé qui lui aurait glissé une mauvaise idée comme
oui.
cela? Et puis, bon, le genre de vie aussi de son fils tout de même, qui s'absente les soirées, voire une partie de la nuit, que fait-il, etc.
Oui.
Tout ceci, évidemment, a été une source de discorde au sein de la
oui.
famille.
Alors, Frassati a une sœur
oui.
et des parents qui ne s'entendent pas.
Non, ses parents ne s'entendent pas. Et l'enfant va grandir dans une famille que nous pourrions appeler désunie.
Oui.
Alors, je crois qu'il faut faire attention, il n'y a pas de bagarre psychologique ou physique, mais c'est une sorte de climat d'indifférence qui peu à peu, eh bien, esquinte quelque part ce noyau familial.
Oui.
Et sa sœur et lui vont former un duo, si j'ose dire,
oui.
Ils vont s'épauler mutuellement et essayer de se réconforter l'un l'autre dans eh bien, ce milieu de tension, de
oui.
tension entre la mère et le père.
Oui, on les sent très soudés.
Très soudés.
Et ce qui est très touchant, c'est qu'ils doivent souffrir évidemment de cette situation, mais ils font tout pour que ce soit malgré tout harmonieux.
Exactement.
Déjà, là, il y a une graine de sainteté chez ce garçon
qui
est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour ne pas faire de peine à ses parents et à sa maman pour ne pas qu'elle... On le voit même, enfin on en reparlera, mais à la fin de sa vie, quand il est malade et que la grand-mère est souffrante à côté et qu'il ne veut pas dire à quel point il est malade alors qu'il va mourir dans la foulée.
C'est ça, il a vraiment porté toutes ses peines, les tristesses familiales. Hein, et il les a certainement offertes à Dieu, bien entendu,
oui.
mais il fait tout humainement pour que les choses se passent au mieux. Et j'ajoute immédiatement, il a supporté cela en supportant autre chose aussi, qui est certainement encore peut-être pire, c'est les réprimandes paternelles, encouragement et réprimande, mais bon, voilà, comme quoi, que fais-tu mon fils, que fais-tu de ta vie,
oui.
regarde la situation à laquelle je suis arrivé, je suis un notable, hein, un grand notable de
oui.
Turin, prends en boîte, et suis-moi, mais voilà, sinon c'est une catastrophe. Et il est vrai que ça a été dans l'esprit du père une catastrophe.
Oui, du reste, il le lui dit bien quand il est, quand il change d'école, parce que ça ne marche pas,
exactement.
Notamment en latin.
Exactement.
Et en plus, je trouve assez dur parce qu'il lui dit sa déception.
Il lui dit sa déception qui a dû être énorme.
Oui.
Il voyait en son seul fils, évidemment, son successeur. Il y a quelque chose, sans faire de la psychologie d'arrière-cuisine, mais c'est remarquable, l'identification au père, à la figure paternelle, ne se passe pas du tout, là,
oui.
chez le bienheureux. Hein. Il aime son père, mais il ne cherche pas à reproduire, évidemment, le schéma social, professionnel, etc.
Oui, oui.
Hein, donc avec cette autorité qui, pour lui, pour le saint, c'est une autorité toute humaine.
Oui.
Mais pour lui, l'autorité vient d'ailleurs.
Oui, oui. Du reste, c'est le seul moment où il n'obéit pas à son père.
Exactement.
Alors, du reste, vous parlez de sociologie et dans votre livre, vous dites... Pierre Giorgio n'analyse pas les groupes humains avec l'œil du sociologue. Il considère avant tout la société non comme une entité politique d'abord, mais comme un membre de l'Église, corps du Christ. Donc très vite, en fait, ça me fait penser aux chrétiens d'Orient. Les chrétiens
oui.
d'Orient ont exactement cette même approche dans
oui.
leurs relations humaines.
Oui, 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 tout à fait. Il y a un sens, on pourrait dire, un sens de l'Église
oui,
extrêmement
ça,
oui. intéressant. Oui. Qui ne lui a pas été enseigné comme une doctrine, mais qu'il a certainement que l'Esprit Saint lui a transmis
oui.
intérieurement. C'est ça qui est tout à fait remarquable.
Alors, hein. donc ce jeune homme, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc tout petit, qu'est-ce qui a éveillé sa foi ? Comment tout ça s'est produit ?
Ah, ça c'est un mystère. Ça c'est un vrai mystère.
Alors
comme
justement,
Oui.
Oui, petite, vous dites finalement, j'ai l'impression qu'on ne sait pas tout sur lui. Hein.
Non.
Parce que plusieurs fois, vous dites dans votre livre, tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il offrait peut-être ses souffrances, mais il y a toute une part de mystère.
Bien sûr. Voilà. Certains ont dit qu'il était très cachotier, qu'il était secret, etc.
C'est pudique, peut-être.
C'est très pudique. Il n'y a pas de cachotterie, ou en tout cas de goût du secret. Bien sûr, non. Sa démarche est vraiment tout évangélique.
Oui. Alors donc, ce petit garçon...
Alors, ce petit garçon, comme tous les petits garçons est scolarisé, bien sûr, à Turin, il fréquente des camarades de son âge, etc. Comme à la maison, les choses se passent assez mal, il passe des heures à jouer avec sa sœur, bien sûr, qu'il adore. Et le jour où sa sœur, bien sûr, décidera de se marier, c'est pour lui un ravage. Ravage intérieur, un ravage affectif. Il l'écrit, il lui écrit, etc. Il y a des échanges épistolaires très intéressants. Et les interventions de son père, qui suit quand même son cheminement, sa scolarité également, ces interventions surviennent assez tôt. Il est à peine adolescent qu'il y a déjà le poids, je dirais, de tout un milieu social, les us et coutumes, qui viennent en quelque sorte en superstructure, en surplombé, son éducation. Et c'est un enfant qui est certainement rêveur, quelque part, intelligent, rêveur, réfléchi aussi, et qui très tôt a un exemple, alors là c'est peut-être l'explication, une partie du ministère, qui a très tôt sous les yeux la misère, la pauvreté dans la ville de Turin. Il est frappé, il le relate comme un souvenir loin. Ensuite, un jour, un clochard sonne à la porte du domicile familial, très très beau domicile familial, même la famille a déménagé plusieurs fois, et il n'est pas accepté, bien sûr, on ne le fait pas rentrer, on lui dit de partir, et ça c'était quelque chose qui, déjà tout gosse, le perturbe. Il sent que là il y a quelque chose qui est une sorte de manquement. Le temps passant, il va identifier, ce pauvre qui a sonné à la porte, bien sûr, avec le Christ lui-même, le Christ qui est pauvre parmi les pauvres. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, en lui, forme une chic note, vraiment un point de départ essentiel. Il a ensuite, c'est le deuxième étage, plus tard, l'opportunité de visiter une sorte d'hospice pour les pauvres à Turin, avec un ami prêtre, un ami prêtre, la paroisse voisine qui va beaucoup compter dans sa vocation. Et c'est une révélation, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est très surprenant, chez un jeune, il n'a pas 20 ans, on pourrait penser, va-t-il avoir une réaction un petit peu de pas de peur, mais au moins de distanciation face à des misères, bien sûr, absolument épouvantables. Eh bien non.
Alors, on va apprendre la suite, on va faire un petit break.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, poursuivons.
Oui, et donc non, en visitant cet asile où sont entassées, entre guillemets, des personnes vraiment démunies de tout, il n'a pas cette réaction de rejet. Au contraire, c'est très rare, mais il se sent, j'ai envie de dire, dans son élément. C'est-à-dire qu'il est émerveillé, quelque part, de ce qu'il voit. Non, pas la pauvreté, au-delà de la pauvreté, au-delà des apparences, il voit le Christ.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui va décider de toute sa vie. De toute sa vie et de tous ses actes, en plus.
Alors, ce jeune homme est un jeune homme de son temps qui aime la montagne, qui a une bande d'amis, qui est très sportif. C'est incroyable, 24 heures suffisent tout juste pour remplir ses journées, parce que la nuit, adoration, la société des types louches, qu'est-ce que c'est que ce machin-là?
Alors, les types louches, c'est un peu plus tard, ça, les types louches. Alors, c'est on pourrait dire, une sorte de fraternité spirituelle et amicale qu'il met sur pied avec des camarades de longue date. Afin que, au-delà des circonstances de la vie, il continue d'exister un lien, vraiment un lien fort entre ses membres. Alors c'est très drôle, parce que lui prend le nom de Jérôme Savonarole, oui. Du nom du prédicateur dominicain, oui. Du 15e siècle.
C'est pas un nom qu'on prendrait aisément, puisqu'il a quand même été... c'est pas une référence, enfin, en tous les cas...
C'est un homme qui a évidemment beaucoup compté dans l'histoire, notamment de la cité florentine,
hein, bien sûr, Florence. Bien sûr, oui.
Et d'autres de ses camarades sont baptisés Robespierre,
oui.
Donc des choses tout à fait amusantes, hein, bien sûr. Et ils se réunissent autour d'un bon repas, hein, régulièrement. Alors, on chahute, on mange, on boit un petit peu de bière, enfin, etc. Oui. Et on se réunit aussi à l'occasion de courses en montagne, parce que, comme vous venez de le dire, c'est un alpiniste chevronné, hein, oui. Ce bienheureux Frassati. Il est initié à la course en montagne, il a à peine 10 ans. Bon, avec ses parents. Oui, non, c'est quelque. Il est membre de clubs alpins divers et variés.
Il a gagné un prix. J'ai lu qu'il avait participé à une épreuve et il a.
Oui. Et il s'attaque à des sommets extrêmement difficiles.
Oui.
Il fait des courses jusqu'à pratiquement 4000 mètres d'altitude.
Ah, oui,
dans des situations. Là, on n'est plus dans l'ordre de la randonnée.
Oui.
On est vraiment dans l'ordre de l'alpinisme.
Oui.
Et c'est tout à fait remarquable. Hein, tout à fait remarquable. Il pratique aussi le ski alpin. Et il a des capacités physiques et sportives vraiment tout à fait exceptionnelles. Hein.
Ah, oui.
Et c'est son élément. Alors, il ne considère pas la montagne comme simplement un décor naturel. Mais il voit dans la montagne, dans la haute montagne, la signature de Dieu.
Oui.
Hein, quelque chose, un élément d'une beauté qui révèle bien sûr la création.
Alors nous parlions des pauvres tout à l'heure. Il était très, très attaché à Rerum Novarum de Léon XIII. J'ai trouvé ça assez touchant de voir que ce sera Léon XIV qui le canonisera.
Oui, oui.
Si le pape François n'était pas décédé au printemps, ce petit clin d'œil n'aurait pas eu lieu. J'ai trouvé ça assez amusant.
C'est amusant, c'est très amusant. Et l'encyclique, donc, Rerum Novarum a énormément compté dans ces générations.
Oui.
On en parle évidemment un petit peu moins maintenant. Hein.
Alors, depuis que nous avons le pape Léon XIV, c'est revenu.
C'est revenu. Il faut savoir que ce texte, donc promulgué par Léon XIII, a énormément infusé, enfin, a même permis le développement de tout ce qu'on appelait le catholicisme social.
Social, hein. Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est que le catholicisme social ? C'est la manière dont l'Église catholique, à son plus haut niveau, eh bien, envisage les relations et les difficultés sociales au sein de nos sociétés contemporaines. Ça peut être la question ouvrière, le chômage, la croissance, le développement des pays du tiers-monde, etc. Enfin, tout ça, c'est un ensemble qui a énormément compté. Et c'est la base de réflexion de Pier Giorgio Frassati. J'ajoute immédiatement, c'est aussi l'un des livres de chevet de son père, Alfredo, qui ne se désintéresse pas. Parce qu'on y parle, là aussi, dans cette encyclique, on y parle de la vie économique. Donc, ça le concerne. Alors, est-ce que son fils lui a peut-être glissé un mot pour le lire plus intensément? C'est possible, ça, on n'en sait rien.
Par contre, ce que vous précisez bien dans votre livre, c'est que le père, donc, ne gagne pas de l'argent pour le plaisir d'avoir de l'argent. C'est vraiment, il veut faire tourner son journal... donc il est quand même dans cet esprit-là.
Alors tout à fait.
C'est pas le capitaliste, si je puis dire.
Au sens où on peut l'imaginer. Non. Il a un rang à tenir.
Oui, c'est
selon
ça.
Sa propre expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appartient effectivement à ce que nous appelons l'élite.
Oui.
Mais dans son esprit, ce n'est pas du tout pour écraser les catégories sociales inférieures. C'est pour assurer à sa famille tout d'abord un train de vie matériel digne de ce nom, et puis ensuite c'est pour propager des idées. Et son journal,
alors,
la Stampa, va propager des idées, en particulier lors des moments difficiles.
Voilà, et alors Pier Giorgio Frassati s'est engagé en politique.
Ah oui.
Ça c'est rare pour un saint.
Oui, parce qu'il est encarté
au
PPI quand même.
Oui.
Là, il est encarté, c'est vrai que c'est assez rare.
Oui.
Remarquez, bon, voilà, il est du 20e siècle,
c'est
donc
ça, exactement.
Il s'inscrit en politique. Il s'inscrit en politique parce qu'il est contemporain de la montée du fascisme et de l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, qui évidemment provoque chez lui une horreur,
oui,
un dégoût, une répulsion profonde. Une répulsion profonde. Alors, pour lui, pourquoi d'ailleurs parle-t-il de Mussolini dans ces termes? Pour lui, le fascisme italien représente, c'est l'anti-évangile. Mmh. C'est l'anti-évangile, violence, magouille, coup bas, élections truquées, culte de la force, volonté de puissance, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
Oui, tout ce qu'il déteste.
Tout ce qu'il déteste. Et en fait, il s'engage vraiment, hein, manu militari, on a envie de dire, et il lui arrive un certain nombre d'histoires, donc, au fil de son adhésion. Alors, il encourage, c'est assez amusant, il encourage ses camarades, hein, y compris du parti, eh bien, à aller à la messe et à se convertir.
Oui.
Ce qui, je ne sais pas là, s'il a trouvé beaucoup, a rencontré un grand succès, mais bon.
Il n'a pas vendu son âme.
Non.
Parce qu'il est resté fidèle à ses idées. Du reste, on le sent, je n'irai peut-être pas jusqu'à torturer, mais il se questionne beaucoup et c'est pour lui, voilà. Mais c'est très beau de voir cette volonté de vouloir s'engager en politique.
Bien sûr, bien
pour
sûr.
Faire avancer
bien
les
sûr.
Choses.
Ah oui, bien sûr. Lui a un objectif, hein. L'objectif, c'est de vivre sous le regard de Dieu.
Oui.
Non pas simplement individuellement, mais il souhaite, bien sûr, que collectivement,
oui,
collectivement, ce que le pape Saint Jean-Paul II appelait les structures de péché, eh bien, puisse évidemment être écarté. Et ça,
oui,
ça nécessite eh bien, de mener une vie spirituelle, une vie dans les sacrements, avec les sacrements, etc. Et ça, il le voudrait pour le corps social entier.
Oui,
pour le
ça.
Corps social
ouais.
entier. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'ecclésial dans sa démarche. Pas seulement politique au sens électoral du terme. D'ailleurs, il n'a brigué aucun mandat, bien entendu.
Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu choisir, qu'il aurait eu la vocation s'il avait vécu davantage?
Ce n'est pas impossible. Il y a chez
On
lui.
On ne sait rien là-dessus.
Non, il y a chez lui, il rencontrait un succès, il était membre en plus de différentes associations catholiques italiennes, et pour lesquelles d'ailleurs il se dépensait sans compter. Votre question est très intéressante, c'est possible. Il y a une sorte, évidemment chez lui, de radicalité dans son engagement, peut-être du fait de sa jeunesse aussi. Mais il rencontrait un certain succès auprès des siens, comme témoignage, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Toute sa vie est un témoignage. C'était quelqu'un qui ne connaît pas d'emploi du temps au sens où nous l'entendons.
Oui.
Ce n'est pas. D'ailleurs, on peut se demander comment a-t-il
tenu.
Est-il parvenu sur ces années, finalement, à tenir le coup, tellement il se dépense.
Quoi. Oui. Il a eu néanmoins un coup de cœur pour une certaine Laura.
Voilà, qui fait partie de la société des gens louches, des
petits plouches.
Oui, c'est un amour qui, évidemment, restera platonique.
Il n'a jamais déclaré sa flamme.
Voilà. Il est très malheureux, hein, à un moment donné. Il en parle à sa sœur, etc. C'est des échanges de lettres incroyables. Ce que l'on sait en revanche moins, c'est que cette jeune femme portera dans sa poche une photo de Pier Giorgio Frassati jusqu'à la fin de ses jours.
Malgré tout, elle dit qu'elle n'éprouvait pas de sentiments pour lui.
Oui, voilà. C'est une question.
Question, oui.
Question.
Ouais, c'est très touchant. Oui. Alors, on peut évidemment faire un lien avec Carlo Acutis, Turin. Famille aisée.
Bien sûr.
Même époque, à peu près.
Et même dévotion eucharistique.
Oui, c'est ça.
Même dévotion eucharistique. Ouais. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est vrai que le Saint-Sacrement est pour, et la messe, pour Pier Giorgio Frassati, quelque chose d'absolument central.
Central.
Sa démarche, vraiment, j'allais dire sa théologie, il n'a pas inscrit un corpus théologique, mais sa démarche spirituelle est toute christocentrique, comme bien sûr. Acutis, bien sûr, tout à fait.
Est-ce qu'il avait une dévotion mariale?
Oui. Alors là, on a moins d'informations, mais tout de même, il a une grande dévotion mariale, oui, tout à fait.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, super, encore une question, s'il vous plaît. Sa mort foudroyante, il sait qu'il va mourir.
Alors, il sait qu'il va mourir, sa mort était édifiante. Édifiante. Il meurt comme en odeur de sainteté, pourrions-nous dire. Hein. Il meurt en s'abandonnant, bien sûr, à la providence divine. Et c'est à partir de là que, évidemment, et surtout de ses obsèques.
Il paraît qu'il y avait un monde fou.
Alors oui, c'est la grande découverte, bien sûr, de son entourage, de ses parents, pour commencer.
Oui, parce qu'il n'avait pas conscience à quel point il était charismatique et aimé.
Ces gens pauvres qui suivent le cercueil de mon fils, personne n'en savait rien. Oui. C'est là une découverte absolument incroyable. Et c'est à partir de là que Alfredo Frassati, son père, va commencer à cogiter, on peut dire, sérieusement.
Je pense que pour des parents, c'est quand même quelque chose de découvrir tout
ça.
Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. J'avais juste une question, parce que une dernière. Vous parliez des lettres. Est-ce qu'il y a un recueil de lettres qui existe ?
Oui, il existe des recueils de lettres dont une grande partie ont été traduites en français même.
D'accord, donc,
on peut chercher ça. Donc je me suis inspiré aussi pour écrire ce petit livre, et c'est très intéressant de voir quel est le cheminement, bien sûr. Mais la partie la plus intéressante de sa correspondance touche vraiment les dernières années.
D'accord.
Voilà, les dernières années. Là, les deux ou trois dernières années de sa vie sont passionnantes.
D'accord, très bien. Alors, Patrick Sbalchero, Pierre Giorgio Frassati, toujours plus haut, la biographie du nouveau saint chez Artege. On pensera à vous le 7 septembre, parce que je pense que vous serez touchés en cette journée particulièrement. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons avec Patrick Sbalchero la semaine prochaine pour parler de la dévotion du Sacré-Cœur. Bonne semaine.